Merci d'écouter Radio France Internationale. On passe au journal des sports. Avec vous, Saliou Diouf, on parle football. C'est le grand jour pour le Paris Saint-Germain.
Joueurs et supporters sont impatients après quasiment un mois d'attente. Il ne reste plus que quelques heures avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale affronte l'Inter Milan pour enfin décrocher le trophée pour la première fois de son histoire. Il devrait pouvoir compter encore une fois sur l'un de ses cadres cette saison, Achraf Hakimi. Le Marocain qui a joué une saison à l'Inter a laissé de bons souvenirs en Lombardie, Cédric De Oliveira.
L'histoire n'a duré qu'un an, mais tout le monde en a gardé des bons souvenirs. D'Achraf Hakimi lui-même, qui parlait récemment de son attachement à l'Inter, aux supporters milanais et à ses anciens coéquipiers. Stéphane Devreuil, le solide défenseur néerlandais des Nerazzurri, n'a que du positif à dire au sujet du Marocain.
Moi, le souvenir que j'ai de lui, c'est celui d'un garçon toujours solaire, souriant, blagueur. Très doué techniquement avec le ballon et physiquement impressionnant. Son année à l'Inter a été fantastique.
Arrivé à l'Inter à l'été 2020, grâce à la volonté d'Antonio Conte, qui était sur le banc à l'époque, Hakimi avait réussi à s'imposer sur le côté droit de la défense milanaise, tout en marquant notamment 7 buts lors de la saison. Son concurrent direct à l'époque, Matteo Darmian, est toujours interiste. Et lui aussi, il tresse des louanges aux défenseurs parisiens.
Je pense que tous les acteurs du club, les supporters de l'Inter, ont de merveilleux souvenirs d'Hakimi. Il a fait une très bonne saison, qui s'est terminée par un scudetto. C'est vraiment un très bon joueur. Il le prouve encore aujourd'hui au Paris Saint-Germain.
Parti en 2021 au PSG contre la somme de 68 millions d'euros, Hakimi avait en plus rapporté gros à l'Inter. Troisième vente la plus importante de l'histoire du club. Mais les Milanais ne lui feront aucun cadeau pour lui permettre de remporter la deuxième Ligue des Champions de sa carrière. Cédric De Oliveira, Munich, RFI.
PSG Inter Milan, la finale de la Ligue des Champions, coup d'envoi à 19h temps universel et ça sera à suivre sur RFI lors de la soirée spéciale autour de Sofiane Amazian, Victor Missistrano et Patrick Juillard. Prise d'antenne 20 minutes avant le coup d'envoi.
Il y aura de l'ambiance dans plusieurs grandes villes en Afrique, Saliou, car les fan clubs du PSG organisent des retransmissions publiques.
De Dakar à Kinshasa en passant par le Caire, Cotonou ou encore Nouakchott, les fan clubs officiels se sont organisés pour retransmettre ces rencontres en public, généralement dans des hôtels situé dans ces villes. L'ambiance est donc garantie sur le continent. Notez tout de même que 2 supporters du PSG Fan Club du Sénégal sont actuellement à Munich. Ils assisteront à la finale ce soir. Ils ont été tirés au sort parmi plusieurs adhérents.
Les chanceux du football toujours à quelques jours de la Coupe du Monde des clubs, le Wydad Casablanca se prépare.
Le club marocain qui a fait la une de plusieurs journaux ces derniers jours à cause d'une rumeur qui annonçait une arrivée imminente de Cristiano Ronaldo joue un match amical aujourd'hui à domicile face au FC Porto. Coup d'envoi de la rencontre 15h temps universel.
Et puis un mot de mercato, Karl Toko Ekambi quitte son club d'Al Ittifaq.
Cela faisait un an et demi qu'il évoluait chez le 7e du championnat d'Arabie Saoudite. L'ex-Lyon indomptable est en fin de contrat, il est donc libre de tout engagement. L'attaquant passé par Lyon et Angers a joué 26 rencontres avec son désormais ex-club pour 3 buts et 2 passes décisives. C'est pas très fameux.
Bon, c'est déjà ça. Ça
mérite d'exister. Il aura marqué l'histoire pour autre chose avec son pays, puisque c'est lui qui avait qualifié les Lions indomptables à la Coupe du Monde 2022.
Ah bah voilà, on retient voilà. Ça alors. Merci beaucoup, Saliou Diouf, pour le journal des sports. La semaine de Jean-Baptiste Placa, votre regard tous les samedis sur l'actualité africaine. Jean-Baptiste, et vous revenez sur l'élection du président de la Banque africaine de développement. Jeudi, Sidi Oulta, ex-grand argentier de la Mauritanie. Vous évoquiez la semaine dernière cette élection avec beaucoup de précautions. Le résultat vous paraît-il rassurant pour l'Afrique?
À présent que la messe est dite, on peut non pas questionner les aptitudes et éventuelles lacunes de certains prétendants, mais juste s'étonner que tel candidat d'Afrique centrale, pris en flagrant délit de népotisme dans des fonctions antérieures, ait pu aspirer à ce poste qui requiert impartialité, doigté et sens de l'intérêt général. Pour l'Afrique, c'est un véritable drame que de devoir subir les élites qui traînent d'institution en institution leurs tares et échecs personnels. À la BAD, les problèmes sensibles que l'on retrouve dans la plupart des États sont multipliés par 50. On ne peut donc la livrer à une élite capable de privilégier la médiocrité d'une culture de clan au sort d'1,5 milliard d'Africains. Ce n'est pas nécessairement le meilleur candidat qui l'emporte, mais le niveau général est d'ordinaire suffisamment bon pour qu'un candidat qui a franchi l'étape de la présélection puisse théoriquement diriger cette banque où les compétences internes sont d'ailleurs telles que l'institution peut tourner normalement sans président. En ces temps de déficit de respectabilité pour l'Afrique, le président dont a urgemment besoin la BAD est un leader d'envergure, capable d'imagination, de créativité, de vision, pour soustraire l'Afrique aux préjugés imbéciles dans lesquels l'enferment encore trop souvent certains.
Et quels sont ces préjugés, Jean-Baptiste ?
Tel suggère, par exemple, que les difficultés de l'Afrique à se nourrir résultent de l'incapacité du paysan africain à travailler comme les autres. En oubliant que sous le chaud soleil, le paysan africain, avec sa houe rudimentaire, déploie parfois 5 fois plus d'énergie de ses muscles que les autres qui, eux, ont des engins agricoles mécanisés pour labourer leurs terres scientifiquement irriguées. Le paysan africain n'est pas paresseux, mais juste mal équipé. La BAD et les banques sous-régionales de développement devraient, en premier, trouver à tous des solutions, y compris coopératives, pour que la force de travail de ces paysans soit mieux utilisée. Les artisans du continent qui subissent des délestages intempestifs d'électricité, amputant gravement leur productivité, ne sont pas plus des fainéants. L'éducation, la santé et tant d'autres secteurs qui portent les conditions déterminantes de ce que l'on appelle le développement peuvent s'améliorer avec une BAD plus proche des préoccupations de tous. Cela n'enlève rien à l'incurie de certains gouvernements incapables parfois de simplement constituer des dossiers crédibles pour accéder aux financements disponibles.
Alors, où sont les certitudes d'espérance ?
Taïwan, Singapour, Hong Kong et la Corée du Sud, qui étaient au même stade que les mieux portants des États africains dans les années 70, disent aujourd'hui du développement « mission accomplie ». Ils sont passés au stade supérieur. Le pire serait que les peuples africains en soient à toujours se demander dans 40 ans à quoi peut bien ressembler le développement. La crédibilité de la BAD réside plus que jamais dans sa capacité à proposer aux Africains des objectifs ambitieux en précisant comment, par étapes, les atteindre. Babacar Ndiaye, président de la BAD entre 1985 et 1995, avait conforté la crédibilité de l'institution en inscrivant durablement dans les notations des grandes agences. Il avait initié la création d'une banque africaine d'import-export pour que les États d'Afrique puissent vendre entre eux et hors du continent. Il a poussé à la création d'une table ronde des hommes d'affaires africains en se promettant de pousser le moment venu à la jonction de ces deux entités avec la BAD dans un objectif précis qu'aucun de ses successeurs n'a vraiment repris. Sans continuité dans les ambitions, l'Afrique pourrait ainsi végéter encore longtemps. Et tous ces présidents qui prétendent avoir opéré des miracles parce qu'ils ont simplement bien fait leur travail convaincront d'autant moins que les peuples du continent ne perçoivent dans leur quotidien aucun signe de ces miracles.
La semaine de Jean-Baptiste Placa, 9h50 à Paris. La chronique menace sur l'information. Aujourd'hui en Guinée, cela fait 1 an que les autorités ont retiré les agréments d'exploitation de plusieurs médias privés accusés de ne pas respecter le contenu des cahiers des charges. Au total, 6 radios et télé, parmi les plus regardées du pays, ont cessé d'émettre. Plusieurs mesures similaires ont suivi. Le Premier ministre Bahouri a expliqué vouloir plus de responsabilité et de professionnalisme de la part des journalistes. Au total, Wely Diallo, cela a largement contribué à fermer l'espace médiatique guinéen.
Les restrictions autour de la liberté de la presse se sont faites progressivement. Les ondes des radios ont été brouillées pendant 6 mois avant l'annonce de fermeture de médias privés en 2024. Babila Keïta est un journaliste d'investigation. Son site d'information, L'Inquisiteur, a été suspendu après avoir publié une enquête sur le ministère de la Justice.
Il y a eu des signes précurseurs qui ont annoncé la volonté des autorités de la transition de fermer tous les médias qui ne fonctionne pas comme ils le souhaitent, c'est-à-dire des médias qui ont un certain regard critique sur la gestion de la transition.
Depuis, le pays a perdu 25 places dans le classement annuel de RSF sur la liberté de la presse. Reporters sans frontières a recensé la perte de plus de 700 emplois dans le secteur. Une mise au chômage brutale qui a été difficile à vivre pour les journalistes et techniciens. Babila Keïta.
Imaginez ce que ça fait, faire face à la popote, faire face à la scolarité des enfants, mais aussi aux autres besoins des familles, Ce fut vraiment un cauchemar. C'est tout simplement du jamais vu.
Dans son rapport, RSF dénonce également la multiplication des agressions, arrestations arbitraires et menaces envers les journalistes en 2024. Cas emblématique, celui de Habib Marwan Camara, enlevé en décembre 2024 par des gendarmes et toujours porté disparu aujourd'hui. Dans ce contexte, Babila Keïta dénonce l'impossibilité d'exercer.
On ne vous confronte pas à la justice ni aux lois de la République. On vous fait disparaître tout simplement parce que vous dérangez. Et donc, avec une telle atmosphère, il sera difficile vraiment que les journalistes aient le courage, l'audace d'exercer librement et en toute indépendance leur profession sans aucune restriction.
Presque un an jour pour jour après la fermeture des médias privés, les autorités guinéennes ont organisé un forum sur l'avenir de la presse à Conakry. Abdoulaye Sow fait partie de ces journalistes poussés à l'exil par la répression de la presse. À ses yeux, ce forum n'est qu'une mascarade.
C'était exactement le jour de la triste commémoration de la fermeture de ces médias libres-là, comme si c'était un pied de nez à ces médias qui ont été fermés, mais aussi à tous les défenseurs de la liberté de la presse.
Lors de ce forum, le Premier ministre Baori a affirmé que l'année écoulée a permis d'esquisser une nouvelle forme de la pratique de la presse. Depuis la fermeture des médias privés, c'est essentiellement le média d'État, RTG, qui traite de l'actualité politique en Guinée.
Willy Diallo pour la chronique Menace sur l'information. Qu'est-ce que les mots nous évoquent? Comment résonnent-ils en nous? Des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher à Lucie Bouteloup. C'est un mot, une histoire.
C'est un mot disparu, un mot du 19e, un mot du peuple parisien, un mot de la Bible qui est descendu dans le ruisseau.
L'histoire commence au fond des temps. Voilà les premiers mots des contes de la Loire que la romancière et traductrice Agnès Michaud vient de publier. Des contes régionaux, souvent oubliés, un peu comme certains des mots rares que l'autrice aime débusquer pour les remettre au goût du jour. La preuve avec le mot dont elle a choisi de nous parler pour cet épisode.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Je vais vous parler du mot « golgoté ». Parce que c'est un mot d'argot du 19e siècle et que j'adore l'argot et que j'adore le 19e siècle. Alors, comme on s'en doute, « golgoté », ça veut dire se poser en martyr et par affaiblissement, ça veut dire de manière très courante « geindre, chouiner, se plaindre sans arrêt », voilà. Ce qui est formidable dans l'argot, c'est la vivacité. C'est la langue en transformation. Ça change vite, l'argot. Et puis, moi, ce que j'aime dans ce mot, en dehors du fait que c'est un néologisme et que j'adore les néologismes, c'est l'irrévérence. Ça, pour moi, c'est un mot très français. C'est-à-dire s'emparer d'un mot religieux, le Golgotha, et d'en faire un mot de la langue courante, d'en détourner un peu le sens, de se moquer. Donc, très vite, c'est pour ça qu'il y a de l'irrévérence. C'est que la douleur est oubliée et ça sera stigmatisé l'emmerdeur. Donc voilà.
C'est un mot qui est quand même peu connu. Est-ce que c'est ce qui vous plaît aussi dans ce mot, le fait qu'il soit rare?
La rareté, c'est toujours très précieux. Je vais vous dire comment je l'ai découvert. En fait, je travaillais sur ma bio de Huysmans et Huysmans utilisant beaucoup d'argot. Je cherche sur Gallica un dictionnaire d'argot du 19e siècle pour me mettre à jour un peu. Et quand je suis tombée sur Golgoté, vraiment, je suis tombée en arrêt, comme on tombe en arrêt devant un paysage. C'est-à-dire que, waouh ! Mais quelle merveille ! Inventer des mots, le néologisme, c'est une des choses que je trouve les plus fertiles de la langue française. Et puis, on a besoin de tous les mots. Et plus il y en a, et mieux c'est. Et quand on peut les faire ressurgir, les faire survivre, et en ajouter des nouveaux, l'argot d'aujourd'hui est formidable aussi. Il faut s'en servir.
C'est un mot que vous aimez utiliser, vous, quand vous écrivez?
Alors, je ne m'en suis encore jamais servi, mais ça va arriver. Et j'aime bien m'en servir dans la vie, et ça fait beaucoup rire mon fils. J'ai cette réflexion parce que quand mon fils un jour a dit « daron », moi je n'avais personnellement jamais entendu ce mot dans ma génération. Donc vous voyez, la manière dont les mots ressurgissent reste très mystérieuse.
Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, le verbe « golgoté » signifie « souffrir le martyr » comme le Christ en croix. Il vient de Golgotha, la colline de Palestine, située près de Jérusalem, où avaient lieu les mises à mort et sur laquelle Jésus-Christ fut crucifié.
C'était un mot, une histoire.
Une chronique avec le soutien de la Délégation générale à la langue française.
et de Lucie Bouteloup qui s'entretenait avec Agnès Michaud. Elle vient de publier Les Contes de la Loire aux éditions Grasset. Et elle en parle sur RFI en podcast dans l'émission De Vive Voix. RFI 9h57 à Paris. Eh bien, RFI Matin touche à sa fin, mais on va se quitter en musique comme tous les jours. On écoute Cabossé, un titre de Pat Kalla et du Super Mojo.
Dis-lui là-haut qu'on s'en fout, nana. Tu crois vraiment qu'on va bosser jusqu'à ce qu'on soit cabossé? On veut pas vieillir au boulot, mais mettre les pieds dans l'eau.
On va pas bosser.
Ah ouais.
Super Mojo et Pat Kalla qui chantent Cabossé. Vous retrouvez ce titre dans la playlist musicale de RFI. Merci d'avoir écouté RFI Matin. 3 heures d'information réalisées par Christophe Pernet, qui n'est même pas cabossé d'ailleurs après cette matinale. Il est bientôt 10h à Paris, 8h en temps universel. On se retrouve dans quelques secondes pour un nouveau journal d'actualité internationale. On va revenir bien sûr sur la finale à venir en Ligue des Champions ce soir entre le PSG et l'Inter Milan. Excellente journée à notre écoute sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan, résultat de lourds investissements des propriétaires qatariens. Mais à quel prix et pour quel bénéfice? Quels sont les projets économiques du club que lui rapporterait un titre européen? On en parle avec l'économiste Jean-Pascal Gaillan.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.